Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Merci de vous réveiller avec nous, votre petit matin qui vous emmène respirer le bon air marin. Voilà.
Ça fait du bien. Hein.
On a tout mis.
C'est ça la petite musique du bonheur, celle des vagues et des mouettes. C'est aujourd'hui la journée mondiale des océans.
Et oui, on va s'intéresser en particulier ce matin aux bienfaits de la mer sur l'organisme.
Booster le tonus, dissiper le stress, soulager les douleurs. Vous avez vu comme on parle plus lentement,
ouais, hein,
avec le ressac derrière. En tout cas, ce à quoi on aspire lorsqu'on s'offre au bord de l'eau une cure en thalasso.
Quelles sont les vertus des thalassothérapies? À qui s'adresse-t-elle? Nous serons à 5h45 avec le docteur Marie Pérez-Iscar, qui est la présidente de France Thalasso, à la une ce 8 juin, Julien.
Oui, il faut bien se réveiller. Une petite révolution pour les consommateurs européens. L'Union européenne va imposer un chargeur universel d'ici 2024 pour les smartphones. Pour commencer, on aura tous le même câble. Hein. Il sera en USB-C, de quoi économiser tout de même 11 000 tonnes de déchets électroniques par an.
C'est l'événement référence sur le sujet. Le Forum international de la cybersécurité se tient actuellement à Lille.
Dans un contexte encore une fois très particulier. L'année passée, c'était le Covid, la pandémie qui a fait exploser le nombre de cyberattaques. En 2022, c'est la guerre en Ukraine.
Une guerre avec ses chars, ses bombes, ses soldats, mais aussi ses hackers.
Qui s'affrontent par clavier interposé depuis le début de l'invasion russe, ce qui amène à cette question. Notre soutien à l'Ukraine nous expose-t-il à des cyber-représailles? Le nombre de cyberattaques visant la France a-t-il augmenté depuis le début de l'invasion?
Et bien, on posera ces questions à 6h10 à notre invité Nicolas Arpagian, spécialiste de la cybermenace.
Et puis on terminera l'émission avec votre partition.
Un brushing blond impeccable et une voix reconnaissable entre toutes. La partition de la chanteuse galloise Bonnie Tyler, 71 ans aujourd'hui, rendez-vous à 6h20.
Et voilà qui était bourrifant. Vous avez l'essentiel du programme pour ce mercredi 8 juin. Bonjour Anissa Adani.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Le 8 juin, c'est la Saint-Médard.
Oui.
Et s'il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard.
Le célèbre dicton, eh ben écoutez, on le vérifiera le 18 juillet.
D'accord, voilà. 40 jours.
Donc s'il pleut le 18 juillet, ce dicton sera vrai et ça va un peu nous gâcher l'été. Bon, enfin bon, ça c'est autre chose.
Oui, mais en même temps, on en a besoin.
On en a besoin. La journée, vous l'avez compris, sera très pluvieuse. On a une perturbation en fait, hein, qui traverse quasiment tout le pays aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'elle traverse assez rapidement, mais elle va apporter pas mal d'eau et tout le monde sera quasiment concerné. Du sud-ouest au nord-est, en passant par le Limousin, l'Auvergne, la vallée du Rhône, le centre, la Bourgogne, la région parisienne, les Hauts-de-France, les Ardennes, la Normandie, c'est de la pluie pour vous et en plus c'est toute la journée, hein, quasiment sans répit. Ce matin, les régions qui restent au sec sont l'Alsace, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Corse et le pourtour méditerranéen. Cet après-midi, le soleil revient par l'ouest. Hein, on verra déjà quelques beaux rayons de soleil sur les Pays de la Loire. Mais la moitié est reste vraiment sous la pluie. Champagne-Ardenne, Île-de-France, Centre, Rhône. Et en plus, ça tourne aux orages. Les températures, grande douceur ce matin. 11 à 16 sur la moitié nord, jusqu'à 22 sur la Côte d'Azur. Et cet après-midi, ça baisse. On avait 25 à Paris, on aura 20. On avait 32 à Marseille hier, on aura 25.
Zut. Bah écoutez,
coupez la chic.
Ça m'a coupé la chic totalement. Merci beaucoup Anissa. À Dadi et à tout à l'heure pour une nouvelle météo. Excellent réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Ils remplissent nos poumons d'oxygène et soignent nos maux du quotidien. Journée mondiale des océans aujourd'hui. Leurs vertus médicinales sont méconnues. Europe 1, à l'heure de la Grande Bleue, vous explique tout sur ces mollusques et micro-algues qui nous guérissent. C'est bon pour l'environnement et le portefeuille. Terminé la galère pour recharger téléphone et ordinateur. L'Union européenne adopte le chargeur unique. Et puis, la maison de l'horreur, celle du monstre Marc Dutroux en Belgique, bientôt démolie pour accueillir un mémorial dédié à ses victimes. 25 ans après, les voisins sont soulagés. Nous les avons rencontrés.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal, c'est avec Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Nous sommes le 8 juin, journée mondiale des océans. Et ce matin, sur Europe 1, on ouvre un dossier sur eux. Ils recouvrent 70% de notre planète, nous nourrissent et pas seulement les océans soignent. Un peu comme une pharmacie naturelle. Comment, eh bien, les mollusques et les micro-algues jouent un rôle primordial? Marion Gauthier.
Dans les abysses, de quoi peut-être guérir du cancer. Au Centre Atlantique à Nantes, des chercheurs se penchent depuis des années sur une molécule issue d'une bactérie des fonds marins, détaille Sylvia Colliec-Jouot de l'Ifremer. Elle est administrée à des souris souffrant d'un cancer des os.
Et on a montré qu'en traitant ces souris avec notre molécule, il y avait moins de métastases pulmonaires. Et donc la survie des souris était aussi augmentée.
On n'est qu'au Moyen-Âge de la découverte de ce qu'on peut avoir dans l'océan.
Et il reste une infinité de recherches à faire, s'exclame Philippe Mombé, dans le pôle mer Bretagne-Atlantique où il est directeur adjoint. Une société dissèque une éponge de mer et analyse une autre molécule. Elle permettrait de corriger des déficits cognitifs de personnes atteintes de trisomie 21, par exemple.
L'océan est sans doute l'avenir de notre armoire à pharmacie. Il est essentiel de les préserver parce qu'aujourd'hui, les océans, ils ont ce potentiel réservoir de molécules qui peut nous aider à mieux vivre et à guérir des maladies qu'on n'arrive pas à guérir aujourd'hui.
Et la France tient un rôle essentiel. Elle a la deuxième zone économique exclusive du monde, le deuxième plus gros potentiel de découverte sous la surface de ses eaux territoriales.
Marion Gauthier.
15 nouveaux cas de variole du singe recensés en France.
Soit un total de 66 infections confirmées dans le pays, selon Santé publique France hier après-midi. 48 se trouvent en Île-de-France. Tous les cas examinés sont des hommes âgés de 22 à 63 ans.
L'actualité ce matin, c'est aussi cette nouveauté en matière de technologie. On est beaucoup, il faut bien le dire, à avoir ce tiroir chez nous qui regorge de chargeurs et de câbles à ne plus savoir qu'en faire.
Oui, hein, plein de prises pour plein de modèles de téléphones ou de tablettes différents. Eh bien, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Les détails avec Nina Droff.
Si vous avez un téléphone ou un ordinateur portable, vous avez sûrement déjà rencontré ce type de désagrément.
Mes deux sœurs, elles ont deux Samsung, mais les deux, ils ont même pas le même chargeur. Moi, j'ai un iPhone, donc à chaque fois, c'est la galère.
Moi, j'ai des chargeurs d'anciens téléphones, ça traîne au fond du placard.
Mais à partir de 2024, tout va changer puisque seuls les chargeurs de type USB-C seront autorisés dans l'UE. Un chargeur unique pour tous les appareils. Une petite révolution écologique selon Sonia Gospodinova, porte-parole de la Commission européenne.
Les chargeurs non utilisés représentent 11 000 tonnes de déchets électroniques. Avec un chargeur unique, ce chiffre sera réduit de 1 000 tonnes chaque année.
En plus de cela, cette mesure représente un certain nombre d'avantages économiques pour les consommateurs, selon David Cormand, eurodéputé écologiste.
Pour les fabricants, les constructeurs, d'avoir plusieurs chargeurs et de remplacer les chargeurs, etc., etc., c'est une manière d'inviter à la surconsommation. Avec un chargeur universel, une fois que vous en avez un ou deux, vous les gardez longtemps.
Selon les estimations, les ménages de l'Union européenne économiseront au total plus de 250 millions d'euros par an.
Nina Droff, une mesure adoptée aux grandes dames du géant Apple, opposée à cette nouvelle réglementation. Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, prévient « La marque à la pomme devra respecter les règles européennes. Il faut penser à l'environnement. »
Et ne plus penser qu'à sa pomme. J-4 avant le premier tour des législatives, le Conseil d'État donne raison à Jean-Luc Mélenchon.
Oui, hein, le leader insoumis l'avait saisi pour que la NUPES soit considérée comme une nuance politique à part entière. C'est maintenant chose faite. Le Conseil d'État estime que comptabiliser les partis politiques de l'Union séparément peut porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dit prendre acte de cette décision et modifiera la grille des nuances pour créer celle de la NUPES.
Et de son côté, Marine Le Pen dénonce une mascarade.
Après les déclarations d'Elisabeth Borne hier, la première ministre a annoncé le versement d'une aide financière, initialement le chèque alimentation, à la rentrée pour aider les ménages les plus modestes à faire face à l'inflation. Pour la candidate du Rassemblement national à la présidentielle, les Français ne peuvent pas attendre jusque-là.
L'inflation qui continue de galoper, les prix du carburant ont encore grimpé.
Et ce, malgré la ristourne de 18 centimes à la pompe. Plus de 2 euros le litre de sans-plomb 95 en moyenne la semaine dernière. Le diesel augmente aussi, mais reste sous ce seuil symbolique à 1,96 €.
2,35 recensés cette nuit sur l'A86. Parole, c'est du vécu quoi. 5h06 sur Europe 1. Elle est appelée la maison de l'horreur. À Charleroi, en Belgique, la maison de Marc Dutroux va être purement et simplement rasée.
C'est là que le monstre avait séquestré et même emmuré certaines de ses victimes, comme Sabine et Laetitia, sauvées in extremis en 1996. Au moins 4 autres petites victimes n'ont pas eu cette chance. Alors dans le quartier de Marcinelle, les voisins sont apaisés en observant le balai d'engins qui détruit la maison du criminel. Notre correspondant Lionel Gougelot les a rencontrés.
Habitante de cette rue en bordure de la voie ferrée, Hildegarde a suivi avec soulagement hier les premières opérations de démolition de cette maison maudite. Et même si elle n'est venue vivre ici que quelques années après l'affaire du trou, la mère de famille restait très marquée par la tragédie.
Quand je passais devant, ça me donnait vraiment des frissons. J'avais l'impression de sentir quelque chose, quoi. Ces gamines qui sont mortes de faim et tout, c'est vraiment l'horreur. Donc, ne plus voir cette maison-là, ben, ça va soulager tout le monde ici dans le quartier, hein. Ça c'est un fait. Hein.
Une maison qui sera en fait déconstruite presque brique par brique, et à la place sera érigé un jardin de la mémoire en hommage aux fillettes, un site conçu en concertation avec les parents, mais un projet qui vient un peu tard selon Steve.
C'est un peu effectivement déplorable qu'il a fallu autant de temps pour démolir cette maison, il aurait fallu évidemment qu'elle soit détruite plus tôt. Maintenant, voilà, le fait de faire, je veux dire, quelque chose qui permettra en tout cas de rester dans les mémoires et ne pas oublier ce qui s'est passé. Je pense que c'est ça le plus important.
Seule la cave de la maison et la cachette où étaient séquestrées les petites victimes seront préservées pour permettre, si besoin, de futures investigations de police scientifique, là encore à la demande des parents. Charles Roy, Lionel Gougelot, Europe 1.
5h07 sur Europe 1. Ils connaissent le banc, mais celui sur le bord du terrain de foot, pas celui sur des accusés sur lequel ils vont devoir s'asseoir à partir d'aujourd'hui. Ils, c'est Michel Platini et Seb Blatter.
Jusqu'au 22 juin, ils comparaissent au tribunal de Bellinzon en Suisse pour une vieille histoire qui remonte à 2011. Les deux boss du foot vont répondre de gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres pour un paiement présumé déloyal de 2 millions de francs. Mais l'enjeu est taillé. Explication signée Johan Tritz.
Ce procès, pour Michel Platini, c'était un moyen de laver son honneur, comme il le déclarait au micro d'Europe 1.
Je lâche rien. Et à la fin, je gagnerai. On a inventé un arriéré de salaire, un truc bidon, de la corruption. C'est incroyable tout ce qui m'est tombé sur la tête.
Un déferlement médiatique et judiciaire qui lui a coûté sa candidature à la présidence de la FIFA en 2015, mais surtout sa place dans le football dont il est éloigné depuis. Et s'il est de retour aujourd'hui, c'est sur le banc des accusés. En cause, ce paiement d'arriéré de salaire de 2 millions de francs suisses en 2011. Indu pour son rôle de conseiller technique auprès de l'instance mondiale du foot entre 1998 et 2002, se défend-il. Problème, c'est que le contrat n'apparaît pas. Il est seulement oral avec Sepp Blatter, le patron de l'époque, ancien ami devenu ennemi juré du français, qui sera dans le box rangé à ses côtés cette fois-ci.
Mais oral, c'est un contrat. Ce paiement était fait dans les règles de l'art.
Pas pour la justice suisse qui ne croit pas en cette version et parle plutôt de pot de vin. Une invention de toute pièce, dit même la FIFA partie civile. Il n'y avait aucune dette, le contrat avait déjà été payé. Aujourd'hui, Sepp Blatter est entendu, puis ce sera au tour de Michel Platini demain.
Johan Tritz.
Allez, on termine ce journal en musique avec le retour d'un certain Robbie Williams.
Vous entendez la Angels, le tube mythique du chanteur britannique, mais légèrement différent de la version originale, car il est composé par une intelligence artificielle. Premier extrait de son album 25, écrit en chiffres romains. Pour le reste, il s'est entouré d'un orchestre jazz pour reprendre ses plus grands succès. 4 inédits seront aussi proposés. Et comme une vieille habitude, Robbie Williams pose nu pour la pochette de l'album. Voilà, 25, le nouvel album de Robbie Williams pour célébrer ses 25 ans de carrière solo sortira le 9 septembre.
C'était une information absolument indispensable. Exactement. Pour conclure ce journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
5h10, ce sont les courses de Thierry Léger. À présent, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Laval. Et mon pari gagnant sera le 209, Goupil d'Ardenne. Il alterne avec réussite les deux spécialités, le monté et l'attelé. Et le style de sa dernière victoire obtenue au trot monté le 12 mai sur l'hippodrome de Cholet me permet de vous affirmer qu'il devrait pouvoir sur sa lancée doubler la mise, d'autant plus que le profil de la piste de l'hippodrome de Laval sera en parfaite adéquation avec ses aptitudes. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Laval, réunion 1, dans la deuxième course, le numéro 9, Goupil d'Ardenne.
Goupil d'Ardenne, merci beaucoup Thierry Léger. On vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. A tout de suite.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
Et place au pressing à présent. Le casting est évidemment complété. par Martin Lange. Bonjour.
Bonjour Aubline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin. Les unes de vos journaux font honneur ce matin à un homme qui se rêve Premier ministre et qui a présenté hier son programme économique. Il s'agit, vous l'avez compris, de Jean-Luc Mélenchon qui est d'ores et déjà, on peut le dire, rhabillé pour l'hiver par une partie de la presse. Les cinq grosses ficelles de Mélenchon, titre l'Opinion, qui prédit la ruine du contribuable si le leader de la NUPES venait à investir Matignon. Analyse similaire, étonnamment, du Figaro. Impôts, dépenses, le projet inquiétant de Mélenchon, peut-on lire en une du quotidien, qui craint une explosion de la dette, de la fiscalité et des déficits. Bref, un effondrement pur et simple de notre économie. On termine avec ces maisons de retraite à la une du Parisien aujourd'hui en France. Après Orpea, Korian face à la justice, 30 familles vont en effet déposer plainte aujourd'hui contre le numéro 1 des EHPAD en France pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide. Omblin, on commence avec vous.
Une histoire dans le Parisien, l'histoire de cet homme de 70 ans que les médecins ne voulaient plus réanimer après 4 mois de coma et qui a retrouvé la parole. Jean-Claude Seknagi, est admis en réanimation en janvier, un mois plus tard, en raison de ses antécédents de santé et des multiples infections qu'il vient de contracter. L'équipe médicale du service de réanimation décide de limiter ou d'arrêter les soins en cas de complications. Les médecins s'accordent pour ne pas s'acharner contre la vie de la famille. La femme et les enfants du patient s'insurgent contre, je les cite, cette mort programmée. Il lance une pétition qui reçoit 10 000 signatures et porte l'affaire en justice. Le tribunal administratif de Montreuil missionne dans un premier temps un médecin expert selon qui aucun traitement curatif objectif ne peut être proposé. Pour un autre professionnel, aucun patient à travers le monde dans cette même situation n'a réussi à vivre après une aussi longue période de séjour en réanimation. Quelques semaines plus tard, les médecins spécialisés des troubles de la conscience dressent à leur tour des perspectives peu encourageantes. Et pourtant, malgré tous ces avis pessimistes, le tribunal de Montreuil donne raison à la famille. L'hôpital doit continuer d'apporter effectivement les soins nécessaires à Jean-Claude Seknagi. Quelques semaines plus tard, et après une extubation réussie, ce qui veut dire, pour faire simple, que le patient n'a plus besoin de machine pour respirer, Jean-Claude Seknagi reprend conscience. Il est toujours alité, mais il répond aux questions qu'on lui pose. Il effectue des calculs mentaux. Il récite même les paroles de la chanson « Que je t'aime » de Johnny Hallyday.
Il revient à la vie.
Il revient à la vie et il sortira bientôt du service de réanimation. Alors, miracle ou erreur médicale, la famille s'interroge toujours. Selon son avocat, même si les médecins étaient persuadés que leur décision était légitime, cette histoire traduit le manque de moyens à l'hôpital et que, dit-elle, les médecins ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas garder tout le monde en réanimation. Le journal précise que l'hôpital a été contacté mais a refusé de faire tout commentaire d'ordre médical. C'est une histoire assez incroyable à lire dans le Parisien.
Merci beaucoup Omblin. Martin, on vous écoute.
Oui, est-ce que vous vous souvenez de Kamila Valieva?
Non.
Pas comme ça, Camilla, non.
Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est une patineuse russe. Retour en février dernier, en plein Jeux Olympiques d'hiver. Camilla Valieva, 15 ans, se retrouve au cœur d'un scandale de dopage alors qu'elle vient de remporter l'épreuve par équipe et qu'elle s'avance comme la grande favorite pour l'épreuve individuelle. Son contrôle positif est officialisé. D'abord suspendue, elle est finalement autorisée à concourir par le tribunal arbitral du sport. Mais face à la pression, Valieva est au cœur d'un bras de fer diplomatique entre la Russie et les États-Unis sur fond de guerre en Ukraine. Elle craque lors de son programme libre. En larmes, elle chute à plusieurs reprises et termine finalement quatrième.
On se souvient de la réaction de ses entraîneurs assez glaciale.
Exactement. Depuis, son très jeune âge est au cœur des débats. Faut-il laisser des adolescents se faire broyer ainsi? Eh bien, la Fédération internationale de patinage a tranché hier. L'âge minimum pour participer à des compétitions a été relevé de 15 à 17 ans. Une décision historique, selon son président, qui vise à éviter la casse physique et mentale des patineurs.
Oui, mais Martin, ce relèvement de l'âge minimum est en fait un serpent de mer.
Oui, l'affaire Valieva a seulement servi de déclencheur. D'ailleurs, selon une enquête menée par la Commission des athlètes auprès de 1000 patineurs et entraîneurs, 86% sont favorables à cette nouvelle réglementation. Il faut dire que le patinage est un sport particulièrement éprouvant où des jeunes filles enchaînent des heures d'entraînement avec des sauts, des pirouettes alors que leur corps est encore en développement. Ces corps d'adolescents justement sont d'ailleurs un avantage pour réussir des triples, voire des quadruples sauts. La puberté n'a pas encore fait son œuvre et c'était jusqu'à présent le drame de ces jeunes femmes qui, une fois leur croissance terminée, avaient beaucoup plus de mal à accomplir ces prouesses et se retrouvaient très vite sur la touche à remplacer par des femmes encore plus jeunes. En Russie, cette nouvelle réglementation réglementation a évidemment été perçue comme une attaque. Cette décision est surtout dirigée contre nous, fustige l'ancien médaillé olympique Alexander Zoulin. Nous gagnerons de toute façon, estime l'ancienne coach Tatiana Tarasova. Mais dans le reste du monde du patinage, elle est aussi jugée insuffisante. Pour l'allemand Norbert Schramm, c'est de la poudre aux yeux. Lui milite pour un âge minimum de 21 ans. À 17 ans, les jeunes restent beaucoup trop dépendants de leur environnement, comme Valieva avec ses coachs, par exemple. Patinage, l'âge minimum relevé à 17 ans après le scandale Valieva, c'est à retrouver sur le site du Huffington Post.
Et puis ça bousille leur corps et accessoirement leur chance aussi d'avoir des enfants, ou en tout cas de
tout
pouvoir, on
tout
va dire... Les...
Le sport de haut niveau à très jeune âge, et c'est pas forcément une bonne chose.
Merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro qui s'intéresse à un secteur que je pensais, à tort, épargné par l'hégémonie des algorithmes. Comment l'intelligence artificielle pourrait bousculer la création littéraire ? C'est le titre de ce papier passionnant rédigé a priori par un être humain. Alors je vous rassure tout de suite, il n'est pas question ici de robots qui remplaceraient un jour les écrivains en chair et en os, non, et pour la simple et bonne raison que ce scénario digne d'une œuvre de science-fiction s'est déjà réalisé une fois, en 2018, avec la sortie du tout premier roman entièrement écrit par des technologies basée sur l'intelligence artificielle. Son titre, One the Road, chez Jean Boite Édition. Sa note dans Télérama...
Jean Boite Édition.
Sa note dans Télérama, elle boite aussi, hein, pas loin de zéro. C'est dur, mais visiblement mérité, tant le bouquin est d'une piètre qualité littéraire, ajoute le Figaro. Bref, cela avait suffi à l'époque à calmer les angoisses des auteurs. En fait, l'intelligence artificielle est en train de s'immiscer par petites touches tout au long de la chaîne du livre, de sa rédaction à sa promotion, en passant par sa parution. En Allemagne, par exemple, on utilise déjà des algorithmes pour la sélection, des logiciels permettant d'évaluer le potentiel commercial d'un manuscrit avant une hypothétique parution. Les maisons d'édition allemandes ont craqué il y a peu pour Qualifiction, c'est le nom de ce programme informatique qui promet d'analyser les promesses d'un texte grâce à des critères comme sa trame narrative, la complexité des phrases et son caractère innovant par rapport au reste du catalogue de l'éditeur. En clair, cela les aide à décider si la maison doit signer ou non tel ou tel auteur.
C'est dur, on est jugé par un ordinateur.
Oui. En France, nos éditeurs sont un peu plus conservateurs. Aucun n'a pour l'heure jeté son dévolu sur ce genre d'outils. En revanche, ils ne se privent pas d'utiliser d'intelligence artificielle pour optimiser la vente d'ouvrages déjà publiés. Il existe des algorithmes qui aident à définir le tirage d'un roman en fonction de l'historique de l'auteur ou de sa thématique, et à affiner les recommandations aux lecteurs selon les goûts. L'IA, comme on l'appelle, s'immisce aussi progressivement dans la traduction. Et pour cause, des progrès considérables en la matière ont été réalisés ces dernières années. Ces logiciels peuvent être utilisés pour dégrossir le travail, notamment dans la traduction des textes courts, dont le sens ne laisse que peu de place à l'interprétation, typiquement des bandes dessinées ou des mangas, qui en quelques clics peuvent être traduits du japonais au français et inversement. Mais à l'avenir, la littérature est également susceptible d'être concernée par cette traduction automatisée, ce qui inquiète les professionnels dont le statut d'auteur pourrait être remis en question. L'année passée, d'ailleurs, une petite maison d'édition a voulu traduire un livre à l'aide d'une IA et a demandé à un traducteur humain d'intervenir en tant que prestataire de service pour éditer le texte à la marge. Enfin, les auteurs peuvent aussi avoir recours à l'intelligence artificielle. Ces derniers mois, des logiciels dits d'accompagnement à l'écriture ont fait leur apparition, comme Genario, une start-up dijonnaise qui, depuis mars, propose une solution basée sur la numérisation de 2500 œuvres, d'Homère à Houellebecq, en passant par Zola ou Agatha Christie. L'algorithme a analysé les critères qui ont fait leur succès, typologie, émotion des personnages, densité des dialogues, tout a été passé à la moulinette pour obtenir ensemble une recette magique à destination d'écrivains débutants en herbe ou dont le premier roman a fait un bide. Contre 8$ par mois, Genario leur propose des solutions narratives, des conseils qui s'affichent en temps réel pendant la rédaction de l'œuvre. Ça a l'air assez bluffant, pour ne pas dire effrayant, c'est-à-dire dans le Figaro, c'est absolument passionnant.
Merci beaucoup Julien, enfin je crois. Mais, merci Martin, on se retrouve dans 40 minutes.
J'espère que c'est mieux que le dernier album de Robbie Williams.
Merci. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports, Martin.
C'est très sympa.
Tout à l'heure.
Je n'osais pas le dire.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Les principaux titres de ce mercredi, narrés par une fan de Robbie Williams, Alban Le Prince.
Une aide financière initialement prévue comme le chèque alimentation sera versée aux ménages les plus modestes à la rentrée pour faire face à l'inflation. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, la première ministre, hier. Du jamais vu depuis le mois de mars, malgré la ristourne de 18 centimes à la pompe, le litre de sans-plomb 95 dépassait les 2 euros en moyenne la semaine dernière. Et puis dans l'affaire du refus d'obtempérer à Paris samedi dernier, le conducteur conducteur du véhicule placé en garde à vue pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les policiers qui ont ouvert le feu tuant la passagère sont quant à eux sortis de garde à vue après 48 heures.
Europe 1. Vous le savez, sur Europe 1, vous avez tous les matins la parole. Ce sont les initiatives en France et elles nous emmènent aujourd'hui dans Lyon.
Lyon, où il est parfois très compliqué d'avoir une connexion Internet décente. Alors, pour pallier à ce problème, des habitants ont créé un fournisseur d'accès à Internet alternatif. Bonjour Bruno Spiquel.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes l'un des membres de la SCANI, acronyme de Société Coopérative d'Aménagement Numérique Iconèse. Que proposez-vous exactement aux habitants des zones blanches de votre région ?
Assez simplement, sur une constatation, il y a une dizaine d'années que Internet devenait à peu près aussi indispensable que l'eau ou l'électricité. On a essayé de trouver les moyens du bord avec ce qu'on pouvait pour amener des connexions aux, ce qu'on pourrait appeler les oubliés du numérique qui existent encore aujourd'hui, en exploitant uniquement des compétences locales et des moyens du bord. On a réussi à construire ce que des entreprises plus grosses ne parviennent pas à construire très localement.
Alors votre réseau, il fonctionne comment ?
Grosso modo, on a de la même façon que n'importe quel autre opérateur des infrastructures qui sont situées dans les grandes métropoles, donc à Paris et en France, qui nous permettent d'être au même niveau que n'importe quel autre opérateur d'un point de vue purement administratif et technique. Et puis, on utilise les moyens du bord pour amener ce réseau jusque là où ça fonctionne pas trop mal dans notre département. Et après, on utilise notre propre réseau qui aujourd'hui fonctionne beaucoup sur de la radio, mais qui mute petit à petit vers la fibre, pour l'amener jusque, si on prend l'exemple extrême, la petite ferme isolée en bas de la colline, qui n'a personne d'autre autour d'elle et qui n'intéresse personne aujourd'hui.
Ça veut dire que cette petite ferme isolée, qui n'intéresse personne, comme vous dites, elle a une antenne radio sur le toit, par exemple, qui lui permet de recevoir
aujourd'hui,
Internet ?
Aujourd'hui, elle a une antenne radio qui très simplement est pointée vers peut-être un centre-bourg un peu éloigné qui a une connexion qui fonctionne pas trop mal et qui, par ce moyen-là, permet d'avoir une connexion. Et demain, si le fermier, qui est très très bien équipé en engins divers et variés, va faire une tranchée et demain, nous mettrons la fibre dedans. On l'a déjà fait à quelques endroits dans le département ces 3 ou 4 dernières années et pourra rivaliser avec ce qu'on trouve à Paris intramuros aujourd'hui.
C'est un travail énorme, bénévole qui plus est.
C'est un travail énorme, ça fait 10 ans qu'on travaille le sujet dans le département. Ça va de 5 personnes qui s'activent quasiment quotidiennement à la trentaine qui font des choses à peu près une fois par mois sur le réseau, mais sur des missions très très diverses qui sont pas forcément techniques, qui sont d'aller discuter avec un élu ou monter dans un clocher avec une paire de jumelles pour regarder si une antenne verrait une autre antenne, ou aller vérifier que un château d'eau n'est pas trop vieux ou trop désuet pour qu'on puisse grimper dessus pour aller y installer du matériel, ou encore s'imaginer que la fibre traverse tel champ et trouver le propriétaire du champ pour lui demander si à l'occasion, lors d'un labourage, on pourrait faire une tranchée un peu plus profonde pour y installer une fibre. Oui.
Et ainsi étendre votre réseau. Vous avez combien d'adhérents, combien d'utilisateurs de votre service à l'heure actuelle ?
En termes de nombre de personnes, c'est compliqué parce qu'on a énormément de structures différentes. Ça va du simple particulier jusqu'au collège ou au lycée. Mais en termes de nombre d'inscrits officiellement qui ont une connexion, il y a 850 structures, majoritairement des particuliers, mais nous avons aussi des mairies, des centres de loisirs, des collèges, des écoles, des exploitations agricoles, des entreprises, des associations, des clubs d'aviron, par exemple.
Ah oui. Alors, on en parle régulièrement, certaines communes rurales perdent des habitants ou ont du mal à en attirer, faute justement d'avoir un réseau Internet suffisant. J'imagine qu'elles sont ravies que vous les reliez au reste du monde, ces communes.
Elles sont ravies. Alors, on a, pour la petite histoire, depuis une dizaine d'années, je crois, servi à conclure 5 ou 6 transactions immobilières, c'est-à-dire des gens qui ont entendu parler de nous et qui, avant de finir par signer leur maison, sont venus nous voir pour vérifier qu'on était en mesure de la connecter. Donc, effectivement, on travaille. Mais alors, c'est une des particularités qu'on a, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec des élus, des entreprises ou des particuliers. Donc, nous avons tout un tas de secteurs où, effectivement, les élus ont été de la partie assez tôt et ont apporté des moyens, donc non pas financiers, c'est relativement faible, mais plutôt techniques et humains. Quelqu'un des services techniques, une nacelle ou des choses comme ça. Et puis nous avons tout un tas d'autres secteurs aussi où, sans forcément être fâchés avec les élus, ils ne sont pas dans la partie et où on travaille quasiment uniquement avec des particuliers en installant notre réseau de maison en maison et d'endroit privé en endroit privé. Et on a eu aussi des cas où on a commencé comme ça, où les élus sont arrivés un petit peu après et ont permis d'aller encore un peu plus loin. Et ça se passe très très bien. C'est tout l'essence de la coopération qu'on entend nous. Vraiment, on prend les moyens du bord disponibles à l'instant T, on fait ce qu'on peut avec, et puis si demain il y en a plus, c'est très bien. Si demain il y en a moins, ça nous arrive aussi, et ben on se débrouille avec moins et on arrive à faire des choses.
En tout cas, vous venez combler un réel besoin. Merci beaucoup Bruno Spiekel d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir partagé cette belle initiative, la coopérative Scani, ce fournisseur d'accès à Internet alternatif dans l'Yonne. Très bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour à vous, bon réveil, nous sommes le mercredi 8 juin et dans un instant le journal de 5h30 de Christophe Lamarre où l'on va détailler le paquet de mesures vertes que le Parlement européen va voter aujourd'hui. Et puis ensuite on s'accordera un petit break thalasso.
Oui, en cette journée mondiale des océans, on évoque ce matin les bienfaits de la mer, des algues, de l'air marin sur l'organisme. En quoi consiste une thalassothérapie? Quels sont ses avantages? Nous poserons la question dans un quart d'heure au docteur Marie Pérez-Siscar, la présidente de France Thalasso.
Et d'ici 6h également, on va se plonger dans la saga Jurassic Park.
Retour sur le premier volet signé Steven Spielberg en 1993 dans le jour où avec l'or d'Autriche, et à 5h50, Laurie Choleva nous dira ce qu'elle a pensé du nouveau film Jurassic World, le monde d'après, dans les salles aujourd'hui.
Mais avant la météo, avec le retour d'Anissa Haddadi, et une bonne journée en perspective pour nos terres.
Et oui, de la pluie et encore de la pluie, et ça c'est une bonne nouvelle, des pluies bienvenues en effet pendant cette période de sécheresse. Donc nous avons une perturbation océanique qui arrose la France d'ouest en est aujourd'hui, avec des cumuls de pluie équivalents à 10 jours dans certaines régions, et la partie de la France la plus touchée se situe entre la région parisienne et les Ardennes. Voilà, on va avoir pas mal de pluie dans ce secteur, mais de manière générale, toutes les régions sont touchées par ces pluies, sauf le pourtour méditerranéen où, comme hier, c'est le vent qui est au rendez-vous, qui chasse les nuages évidemment, avec du Mistral et de la Tramontagne jusqu'à 70 km/h. En Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, il a plu cette nuit, donc ce matin on a un ciel de traîne qui se met en place. C'est donc un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Et puis de l'Occitanie à la Champagne, beaucoup de pluie en passant par l'Auvergne, le centre, la Bourgogne. Des pluies qui cet après-midi prendront un caractère orageux. 11 à Clermont-Ferrand ce matin, 13 à Strasbourg, 14 à Paris et Lille, 16 à Bordeaux et 21 à Nice.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce mercredi, l'Europe se saisit de la question climatique. Le Parlement se prononce aujourd'hui sur un ambitieux projet de loi climat. Parmi les mesures, la fin de la vente de voitures thermiques neuves en 2035 et une taxe carbone aux frontières. Dans ce journal, gros plan sur l'aide militaire française à l'Ukraine avec cette information Europe 1. Paris envisage de livrer 6 canons César supplémentaires au gouvernement ukrainien, soit 12 pièces d'artillerie au total. Et puis la journée mondiale de l'océan, sensibiliser les jeunes à la beauté et la fragilité du monde marin, c'est l'objectif des classes de mer, initiative que l'on doit à la Fondation Maud Fontenoy. Reportage à la fin de cette édition.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Édition qui vous est présentée par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est un rendez-vous qui s'achèvera peut-être sur un vote historique. Le Parlement européen se prononce aujourd'hui sur le très ambitieux paquet de lois climat. Objectif, réduire d'au moins 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, autant dire d'ici demain. Et parmi les 8 propositions soumises au vote, interdiction des ventes de voitures thermiques neuves en 2035 et mise en place d'une taxe carbone aux frontières, Maud Descamps.
Oui, c'est une idée qui avait déjà été évoquée sous Jacques Chirac. Le principe est simple, imposer un surcoût aux produits importés dans l'Union européenne, surcoût calculé en fonction des émissions de CO2 que cette production a générées. Pour l'eurodéputé Pascal Canfin, c'est un changement majeur de positionnement de l'Europe sur le climat.
C'est un changement de logiciel très clair, de mentalité, d'approche de l'Europe sur le sérieux climatique. Nous, on ne peut pas être les seuls à être sérieux sur le plan climatique avec le reste du monde qui ne le ferait pas, si en même temps on n'assure pas des conditions loyales de concurrence, si on n'assure pas une lutte contre le dumping climatique, à ce moment-là, ça veut dire qu'on se tire une balle dans le pied puisqu'on dit à nos industriels, vous, vous payez, mais pas vos concurrents.
Autre mesure phare de ce paquet climat, l'interdiction d'ici 2035 de la vente de voitures thermiques neuves. Mais sur ce point, les eurodéputés sont divisés. L'adoption du texte devrait donc se jouer à quelques voix, me confiait hier un des membres du Parlement européen.
Maude Descamps du service économie d'Europe 1.
On en vient à l'enquête sur le refus d'obtempérer mortel à Paris. Les trois policiers ont été remis en liberté.
Et le conducteur, dont la passagère a été mortellement blessée par balle, est en garde à vue. Il conduisait sans permis et sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Les trois fonctionnaires sont effectivement libres, mais l'enquête se poursuit. L'IGPN, la police des polices, lance un appel à témoins.
On en vient au scandale dans les maisons de retraite. Le groupe Korian se trouve à son tour dans le collimateur de la justice.
30 familles lancent une action collective contre le numéro 1 des EHPAD en France. Plainte déposée pour mise en danger de la vie d'autrui. Autre géant du secteur visé par la justice, Orpea. Plusieurs procédures judiciaires en cours. L'ancien PDG Yves Le Man a par ailleurs été entendu pour délit d'initié. Il est soupçonné d'avoir revendu ses actions quelques jours avant la publication du livre Révélation, Les Fossoyeurs.
La guerre en Ukraine et cette information Europe 1, Paris étudie la possibilité de livrer davantage de canons César à l'armée ukrainienne.
6 pièces supplémentaires pourraient être livrées d'ici la fin du mois. Elles s'ajouteraient aux 6 canons déjà livrés à l'armée ukrainienne. La question est souvent posée d'ailleurs sous forme de reproche. Pourquoi la France ne livre-t-elle pas davantage d'armes lourdes comme le font les Américains ou les Britanniques par exemple? Élément de réponse avec William Molinier.
La première raison invoquée, c'est le frein capacitaire. L'armée de terre disposait en tout et pour tout de 76 canons César, moins les 6 déjà livrés, cela fait 70, moins 6 autres qui doivent être acheminés d'ici à la fin du mois. Le stock tomberait à 64 pièces. 16% du volume opérationnel pourrait donc avoir été amputé en seulement 3 mois. Mais la raison principale, selon plusieurs sources militaires, est la résistance politique. Il faut dire qu'avec ce sujet des armes, Emmanuel Macron avance sur une ligne de crête. D'un côté, ne pas apparaître comme belligérant aux yeux des Russes, de l'autre, montrer que le rôle de la France ne se limite pas à de l'aide humanitaire ou à des livraisons de camions de pompiers. Selon nos informations, les contours de cette nouvelle livraison de César ont été plantés lors du déplacement la semaine dernière à Kiev de Catherine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires étrangères. Son homologue ukrainien se serait montré très satisfait de la première salve de matériel fourni. L'annonce officielle de ce deuxième arrivage pourrait aller de pair avec un déplacement d'Emmanuel Macron à Kiev dans les prochaines semaines, perspective étudiée de près par l'entourage du président. Ce serait sa première visite dans le pays depuis le début de la guerre, il y a 105 jours.
William Molinier sur le terrain. Les combats restent acharnés à Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine. Russes et Ukrainiens se disputent toujours le contrôle de cette ville clé du Donbass. Moscou affirme que ses troupes progressent. Affirmation démentie par Kiev. Inquiétude sur le sort de 800 civils réfugiés à l'intérieur d'une usine chimique.
Un conflit qui en tout cas continue d'alimenter la hausse des prix du pétrole et donc du carburant.
Un nouveau record à la pompe. Le sans-plomb 95 s'affiche à 2,15 € en moyenne, 1,96 € pour le gasoil. Ces prix tiennent compte de la remise de 18 centimes, rabais prolongé d'ailleurs jusqu'à la fin du mois d'août, annonce de la Première ministre.
Elisabeth Borne qui lâche par ailleurs du lest sur les retraites.
Plus 4% en juillet, coup de pouce qui concerne 18 millions de retraités du privé. La chef du gouvernement confirme également le versement d'un nouveau chèque inflation pour les plus modestes dès la rentrée de septembre. Montant à déterminer, peut-être 100 ou 150 euros versés directement sur les comptes bancaires. L'aide tiendra compte du nombre d'enfants par foyer.
Nous sommes le mercredi 8 juin et c'est la journée mondiale des océans. La mer, un milieu précieux qu'il faut savoir préserver. Ça commence dès le plus jeune âge. C'est l'objectif des classes de mer.
Eh bien oui, protéger les fonds marins, ça passe aussi par l'éducation des enfants et des adolescents. La Fondation Maud Fontenoy récompense chaque année des projets portés par des collégiens et des lycéens. La navigatrice était présente hier à Paris pour la remise des prix. Reportage Marie Gicquel.
À l'aquarium de Paris, des espèces incroyables accueillent les visiteurs, comme les méduses flammes ou les requins pointe noire. Mais hier, ce qu'attendaient le plus ces jeunes élèves venus de toute la France, c'était les prix. Des mois qu'ils travaillent sur la préservation des océans, comme Brieux et Anna, lycéens à Rennes. Leur projet, une vidéo nommée « Tout est bon dans le poisson », a remporté l'une de ces distinctions.
On se dit que le poisson, c'est finalement la nourriture qu'on trouve à la poissonnerie, mais en fait, pas du tout. Il y a énormément d'outils, la peau qui peut être utilisée en chirurgie, pour soigner les grands brûlés.
Quelque chose qui m'a vraiment émerveillée, c'est au niveau des écailles. En fait, elles ont des propriétés qui permettent de créer de l'électricité qui pourrait alimenter 4 écailles, pourrait faire 14 volts, etc. Donc c'est assez impressionnant.
Cette initiative permet aux élèves, dès la maternelle, d'être conscients des menaces écologiques qui pèsent sur les océans. Maude Fontenoy.
Les questions qui reviennent souvent, c'est les plastiques qui sont mangés par les tortues, c'est les requins qui sont menacés.
Et les professeurs pensent déjà aux défis de l'année prochaine. Certains voudraient explorer la thématique de l'Europe et des océans, d'autres celle du corail.
Un reportage Marie-Jiquel. Est noté que Maude Fontenoy sera l'invité de Dimitri Pavlenko sur Europe 1 ce matin à partir de 8h30.
Il est de retour, Rafa Nadal est rentré chez lui à Mallorca.
L'Espagnol est déjà fixé sur son nouvel objectif, s'aligner sur le gazon de Wimbledon et s'offrir un 23e titre en Grand Chelem, à condition que son pied cesse de le faire souffrir. Il a d'ailleurs entamé un nouveau traitement à base de radiofréquence pour atténuer la douleur. Raphaël Nadal va profiter de son séjour à Majorque pour prendre un peu de repos en toute discrétion. Comme d'habitude, Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 sur place.
Dans les rues de Porto Cristo, à quelques centaines de mètres de la villa de Raphaël Nadal, une terrasse tranquille au soleil. Petit matin, Catita et Antonio prennent le café. L'idole mondiale est là, toute proche, mais pour eux, Rafa n'est qu'un simple voisin.
Les gens ici ne veulent pas le déranger. Quand il passe, il nous salue, nous le saluons, mais personne ne lui demande des photos ou d'autographes. Ce sont les étrangers qui viennent pour ça. Il est chez lui, personne ne le dérange et c'est pour ça qu'il est là.
Vous savez, on a l'habitude. Quand il vient ici, c'est pour se déconnecter.
Un homme qui déambule tranquillement, anonymement dans les rues de la ville, qui prend un café avec certains habitants. Juste un peu différent, avec 22 tournois du Grand Chelem au compteur. Cette modestie naturelle n'étonne pas Juan. Il connaît la famille Nadal depuis des années. Pour lui, ça fait partie de son ADN.
Je me souviens lorsqu'il avait gagné son premier Roland-Garros. Tout le monde pensait qu'il allait faire une grande fête à son retour. Il a simplement fait un repas avec son père, sa mère, sa sœur et sa femme.
Et selon son entourage, Raphaël Nadal va maintenant se concentrer sur son entraînement et sur ses soins médicaux avant le tournoi de Wimbledon dans 3 semaines.
Un reportage Guillaume Dominguez.
Et c'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet, Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Laval, dans la 6e étape du Grand National du Trot que va se courir ce quintet. Une très belle course au trot attelé qui réunira 16 chevaux âgés de 5 à 10 ans avec une favorite solide, même si elle reste sur une disqualification dans l'étape précédente au Croisé-la-Roche, le numéro 12 Anna Demol. Il faut en effet impérativement oublier cette contre-performance et reprendre en confiance cette jument âgée de 5 ans, la plus jeune parmi les 16 partants, qui n'aura certainement pas à forcer son talent pour pouvoir ici l'emporter. On lui opposera Herdelios, le numéro 7, actuellement en tête de ce Tour de France des trotteurs et qui cherchera ici à conserver son maillot jaune en concluant à coup sûr dans les 5 premiers avec Fréja Dupont, le numéro 11, en regain de forme, comme le prouve sa prometteuse deuxième place obtenue le 25 mai dans la 5e étape de ce GNT au Croisé-la-Roche. Ensuite, méfiez-vous des numéros 10, Epsom Derfray, 3 El Greco Bello, 2 Fragonardello, 9 Echo de Champlecy et 6 DS Noir. Ces 5-là ayant assurément quelques arguments pour postuler à l'une des 5 premières places de ce quintet. Mon pronostic, 12, 7, 11, 10, 3, 2, 9 et 6.
12, 7, 11, 10, 3, 2, 9 et le numéro 6. Julien, merci beaucoup Thierry Léger. Tous ces pronostics sont à retrouver sur Europe1.fr.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu de...
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. C'est le jour où les grands faits historiques qui racontaient à travers les archives d'Europe 1.
Et c'est aujourd'hui que sort au cinéma le dernier volet de la saga Jurassic Park, intitulé Jurassic World, le monde d'après. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Laure, on va revenir avec vous sur la sortie de ce qui a été un phénomène, le tout premier Jurassic Park en 1993, un film qui à l'époque devient un des plus gros succès de l'histoire.
Oui, Steven Spielberg ressuscite les dinosaures de l'époque jurassique. Alors, ils ne doivent pas paraître vrais, mais être vrais, c'est la consigne que le réalisateur a donnée à son équipe de spécialistes des images de synthèse et des marionnettes grandeur nature. Dans le scénario, ce sont eux les stars, les dinosaures.
Des scientifiques, grâce à des manipulations génétiques, redonnent la vie à des dinosaures. Un milliardaire construit pour eux un parc d'attractions. mais les grosses bestioles échappent à leurs gardiens et sèment la panique.
La musique de John Williams envoûte aussi les spectateurs. Le phénomène Jurassic Park débute aux États-Unis où le film sort en 93. Récit à Washington du journaliste d'Europe 1 Benoît Laporte.
Une avalanche de produits dérivés suivra rapidement. Jouets, t-shirts, tatouages, jeux vidéo, les dinosaures vont envahir l'Amérique avant de conquérir le monde. Il y aura même un parc d'attractions sur le même modèle qui ouvrira en Floride dans 3 ans.
À 45 ans, Steven Spielberg a déjà placé 4 films parmi les 10 plus gros succès de l'histoire. E.T., Les Dents de la Mer, Indiana Jones avec les aventuriers de l'Arche perdue et Jurassic Park.
Et quelques mois plus tard, l'or, c'est la même déferlante quand le film sort en France.
Et oui, ici aussi, la puissance des images explique le triomphe de Jurassic Park.
En une semaine, le cap des 2 millions d'entrées a été franchi dans toute la France, ce qui est exceptionnel.
Succès qui se traduit évidemment par beaucoup d'argent pour le réalisateur Steven Spielberg, explique le journaliste Michel Grossior en 93.
Il était déjà le cinéaste le plus riche sur Terre. Il gagnera plus de 100 millions de dollars avec Jurassic Park. De quoi voir l'avenir en rose.
Et les enfants fantasment sur ces monstres, ces dinosaures, tout en jouissant d'un délicieux petit frisson. Témoignage d'enfants en 2018 pendant l'exposition Jurassic World à la Cité du Cinéma.
Moi je trouve que les dinosaures, déjà, ils sont fascinants, ils sont énormes, en plus ils sont très très bien faits. Là il y a au moins 3 mètres, voire même peut-être 4. Ils sont plus vrais que nature, c'est pas possible.
Ah, lui il a peur, mais mamie va pas pouvoir te porter tout le...
Ce petit garçon s'accroche à la jambe de sa grand-mère. Certains secrets de tournage du film Jurassic Park seront révélés plus tard, comme le fait que le cri des dinosaures a été créé à partir d'un mélange de cris d'animaux, de singes, de serpents à sonnette, d'éléphants de mer et d'alligators.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. On vous retrouve demain pour un nouveau jour haut sur Europe 1 et on reviendra bien sûr sur la sortie événement de ce film Jurassic World, le monde d'après, avec Laurie Choleva dans la prescription ciné. Vous restez avec nous sur Europe 1, cette journée mondiale des océans. On parle dans un instant des bienfaits de la mer sur l'organisme.
Législative 2022.
Europe 1 et CNews se mobilisent avec un dispositif exceptionnel.
À 18h, état des lieux avec Pierre de Villeneuve et tous nos envoyés spéciaux.
19h, tous les enjeux du scrutin avec Laurence Ferrari.
À 20h, les premiers résultats des circonscriptions.
Et à 22h, analyse et débat autour de Sonia Mabrouk.
Législative 2022.
Premier tour sur CNews et Europe 1.
C'est dimanche à partir de 18h. Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Excellent début de matinée sur Europe 1. Il est 5h44 et en cette journée mondiale des océans, on s'intéresse à présent avec vous, Omblin, aux bienfaits du milieu marin pour soulager le corps et l'esprit. Et pour parler de la santé par l'eau, nous sommes avec la présidente de France Thalasso, le syndicat national de la thalassothérapie.
Bonjour docteur Marie Pérez-Siscard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes également la dirigeante de Côté Thalasso qui compte 2 centres à Banyuls-sur-Mer au bord de la Méditerranée et sur l'île de Ré. Alors pour commencer, assez simplement, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste une thalassothérapie et quels sont ses avantages ?
Alors d'abord, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, la thalassothérapie, c'est de l'eau de mer. Je vous dis ça parce qu'on a fait une petite enquête et on s'est rendu compte qu'il n'y avait que un quart des personnes interrogées qui étaient capables de dire que pour faire de la thalassothérapie, il fallait être obligatoirement au bord de la mer.
Donc, les centres sont situés exclusivement au bord de la mer, c'est bien précisé.
Ça ne peut être que là parce qu'il nous faut de l'eau de mer toute neuve, toute propre, il y a moins de 24 heures pour que les soins et tous les éléments prodigués en thalasso soient géniaux, que ça ait du sens. Donc effectivement, la thalasso, c'est l'utilisation de l'eau de mer, c'est une santé abordable, aussi bien en prévention qu'en traitement. En prévention, parce qu'on sait qu'au bord de la mer, on va augmenter notre capital d'immunité, donc on va être plus fort contre toutes les agressions. Et puis un peu de traitement aussi, pourquoi ? Parce qu'on le sait depuis toujours que ça améliore des tas de problèmes, des problèmes de peau, des problèmes d'insuffisance veineuse. On sait tous que marcher dans l'eau, y compris et surtout en particulier dans l'eau de mer, ça va nous faire des vasoconstrictions et donc la circulation de retour va être meilleure. Si on a des problèmes d'articulation, le fait d'être dans l'eau de mer, on est porté, le sel nous porte, donc les mouvements sont aisés, les articulations sont lubrifiées. Oui, c'est de la santé, mais c'est de la santé de plaisir. Mmh. C'est du bien-être santé, c'est la définition de la santé, bien-être.
Il ne faut pas forcément souffrir de douleurs physiques hein, lorsqu'on souhaite faire une cure, c'est ce que vous dites aussi.
Si vous voulez, quand on reprend la définition de la santé c'est quoi? C'est un bien-être physique, psychique et social. Donc le bien-être physique, eh ben, c'est se sentir bien, on n'est pas obligé d'avoir des douleurs pour aller en thalasso, encore heureux, mais c'est vrai que si on en a, c'est tant mieux. C'est-à-dire que ce serait un beau gâteau, la thalasso, et soit la cerise sur deux gâteaux, c'est la santé, soit la cerise sur le gâteau, c'est le plaisir qu'on va prendre à être au bord de la mer, à faire de l'évasion. Vous savez, on dit récemment que la trilogie du bonheur, c'est le plaisir, le bien-être santé et l'évasion. Je crois que c'est les principaux bienfaits que la thalasso peut apporter.
Vous disiez tout à l'heure que vous êtes près de la mer, hein, les thalassothérapies sont au bord de la mer avec de l'eau de mer toute propre, toute neuve. Il n'y a pas que l'eau salée qui apporte des bienfaits. C'est quoi aussi la thalasso? Ce sont les algues, les sédiments, ça vient de là aussi?
Absolument. La définition de la thalassothérapie, c'est l'utilisation de l'eau de mer et de ses dérivés. Dans les dérivés, qu'est-ce qu'on a? On a des algues, on a des boues, on a des sables, mais aussi on a l'air marin. On a la respiration, on a la vue. En fait, c'est tout ce qui englobe l'eau de mer et l'océan. Et pour une journée de l'océan, honnêtement, ça devrait être la journée toute l'année des océans et de la mer, parce que c'est un médicament naturel. Il est efficace contre le stress, contre l'anxiété, etc. Mais c'est vrai, il y a l'eau, mais il y a les algues en enveloppement, il y a la boue, enfin, c'est tout ce que je vous disais. C'est notre médicament naturel par excellence, efficace. On sait que c'est efficace, quoi. Mais effectivement, la thalassothérapie, l'eau de mer, son utilisation, vous savez, dans les centres de thalassothérapie, on prend l'eau de mer, on va la chauffer tout doucement pour garder les oligo-éléments purs, pour ne pas altérer ce qu'on appelle le phytoplancton et le zooplancton pour qu'il y ait des effets sur le corps. Mais c'est vrai qu'on va utiliser cette eau qui est maîtrisée avec des jets, avec des douches, avec des bains. Mais on va aussi utiliser des algues qu'on extrait et qu'on mélange avec de l'eau de mer.
Dans l'inconscient collectif, docteur Marie Pérez-Siscar, la thalassothérapie s'adresse surtout aux seniors. Ce n'est pas forcément le cas.
Ce n'est pas forcément le cas du tout. Ça n'a jamais vraiment été le cas. Mais c'est vrai qu'on a cette représentation parce qu'on confond parfois avec le thermalisme, parce qu'on a aussi des peignoirs et des claquettes et qu'on va dans l'eau. Je dis pas que c'est pas bon, hein. Mais c'est vrai que.
Le thermalisme, peut-être... ce sont les cures thermales, hein. C'est ce que
les cures thermales, voilà, de trois semaines. Mais c'est vrai qu'en thalasso, voilà, un séjour, un week-end, etc., on a de la jeunesse. Notre clientèle est vraiment disparate. Ben, on fait des cures maman-bébé à partir de 3 mois le bébé jusqu'à, je crois que notre doyenne à Bagnols-sur-Mer a 97 ans. Donc
vous pouvez accueillir aussi un jeune public, alors c'est adapté pour les enfants, la thalassothérapie.
Alors, en toute sincérité, le fait de mettre des enfants dans l'eau, c'est bien parce qu'on leur montre que c'est une ressource naturelle, qu'on doit la respecter, et que leur apprendre qu'on peut s'en servir pour la santé, ça nous permet d'expliquer aussi aux enfants qu'on ne met pas des plastiques dans l'océan et dans la mer. Mais après, un enfant, pour de la prévention santé, sauf s'il est asthmatique ou s'il a un problème de santé particulier, si ses parents l'alimentent comme il faut, s'il vit bien, s'il fait du sport, a priori, ça va avoir l'aspect apaisant, surtout des parents. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants parfois en thalasso, on fait des cures ados qui sont assez sympathiques. Il faut avouer, ils viennent à plusieurs. Mais vous me parliez tout à l'heure des jeunes. Dans la même enquête que nous avons menée au mois de mars, 75% des 18-34 ans se disent très intéressés par la thalasso, quand même. Je crois que c'est un revirement aussi de société. On a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de prendre du plaisir. Mais on a besoin aussi de faire en sorte que notre santé soit toujours au beau fixe. C'est-à-dire on veut vieillir bien, vieillir correctement, vieillir en bonne santé. Et c'est vrai qu'on s'y prend de plus en plus tôt. Et je crois que cette conscience de la prévention santé dans le sens prévention santé, mais avec des choses naturelles. Quand je vous disais tout à l'heure que le médicament naturel est efficace, c'est l'eau de mer, oui, c'est ça. En dehors des découvertes qui sont en train d'être faites avec les antibiotiques qu'on va trouver dans les algues, dans les éponges, etc., il y a un gros travail qui est fait. C'est vrai qu'on se rend compte que ce qu'on aspire à se faire du bien, on aspire à se faire plaisir et on aspire à se faire une santé de fer par des éléments naturels. Et la thalassothérapie, c'est le numéro un. Je ne vois pas où on peut faire mieux.
Merci beaucoup, docteur Marie Pérez-Siscar, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes la présidente de France Thalasso, le syndicat national de la thalassothérapie et la dirigeante de Côté Thalasso. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup à vous. Merci et à bientôt en Thalasso. Au revoir.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
5h51 sur Europe 1, le journal permanent Alban Le Prince.
L'Union européenne adopte le chargeur unique pour les téléphones, tablettes, liseuses ou encore appareils photo à partir de 2024. 2026 pour les ordinateurs portables, une mesure qui devrait permettre aux Européens d'économiser 2,4 milliards d'euros par an et d'éviter 11 000 tonnes de déchets. Les trois policiers qui ont tiré sur un véhicule samedi à Paris dans le cadre d'un refus d'obtempérer, sorti de garde à vue après 48 heures hier. L'IGPN lance par ailleurs un appel à témoins. Le conducteur du véhicule a quant à lui été placé en garde à vue. Et puis 66 cas de variole du singe détectés en France, c'est 15 de plus que lors du dernier décompte. Toutes les personnes infectées sont des hommes âgés de 22 à 63 ans.
Nous sommes mercredi 8 juin et c'est le jour des sorties ciné.
Bonjour Laurie Cheleva.
Bonjour Ombline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Laurie, alors on en parlait un peu plus tôt avec Laure d'Autriche, les dinosaures sont de retour au cinéma ce mercredi.
Eh oui, méfiez-vous, parce qu'un dinosaure en cache toujours un autre. Vous avez reconnu cette musique, évidemment. C'est Jurassic World, le monde après, qui débarque dans les salles obscures, le troisième volet d'une trilogie préhistorique aussi merveilleuse que terrifiante. Dans ce film, les dinosaures ont quitté l'île mythique de Jurassic Park et se répandent à travers le monde. Et comme si ce n'était pas suffisant, les scientifiques créent une nouvelle espèce de sauterelle géante qui deviennent incontrôlables et menacent l'écosystème à leur tour.
Plus rien ne retient le pouvoir de la génétique.
Nous avons commis une grave erreur.
Pour que notre monde survive, ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
J'ai besoin de vos compétences.
Un bébé raptor ?
J'ai promis de la ramener à sa mère.
Vous avez fait une promesse à un dinosaure.
Oui. Pourquoi ?
Alors on retrouve évidemment les T-Rex, les Vélociraptors, Chris Pratt, Omar Sy et puis surtout le trio original Sam Neill, Laura Dern ou encore Jeff Goldblum qui reprennent respectivement leur rôle. Et s'ils sont de retour tous les trois, je vous laisse imaginer la menace qui pèse sur le monde. Bref, c'est une aventure toujours aussi spectaculaire, engagée, féministe aussi et puis surtout vibrante grâce à l'incroyable musique de John Williams. 29 ans après le premier film de Steven Spielberg, le réalisateur Colin Trevorrow lui rend hommage et signe le dernier opus d'une saga qui nous a tous émerveillés, faut le dire, un peu effrayés aussi par moments. Mais bon, comme disait Jeff Goldblum dans le premier film, la vie trouve toujours un chemin. J'ai envie de dire que c'est Jurassic Park qui trouve toujours un chemin.
À voir également au cinéma dès ce mercredi, Laurie, une comédie sur l'amitié.
Oui, Champagne de Nicolas Vanier, un film de bande avec Elsa Zilberstein, Stéphane De Groot, Éric Elmos-Nino, Sylvie Testu, Stéphie Selma ou encore François-Xavier de Maison. Et j'en oublie Valérie Carcentier aussi. C'est l'histoire d'une bande d'amis qui se retrouve en Champagne à l'occasion de l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais ce week-end festif va vite se transformer en week-end de règlement de compte.
C'est marrant, il n'y a pas de bulle.
Bah non, il n'y a pas de bulle par ego, c'est un vin clair.
Tiens, je file à la guerre.
Oui, il va à la gare.
Et bien ça, c'est cri-cri.
Oui, oui, d'accord. La meuf, tu la mets en blonde, c'est Barbie.
Il y a la moitié en plastique, hein, ça se voit direct.
C'est ça, ouais.
C'est très dur d'arriver dans un clan.
J'ai changé, c'est ça?
Oui, t'as changé, oui. Depuis quand tu mets un fut rose pour me respecter en week-end?
Qui dit que c'est Christine qui me fait changer? C'est ça, l'amitié?
Ah ben, c'est... elle est comme ça, hein.
Alors Nicolas Vanier, le réalisateur plutôt habitué à filmer la nature et les animaux, on lui doit des films comme Belle et Sébastien, a décidé cette fois de s'intéresser aux rapports humains et à l'amitié, l'amitié à l'usure du temps. Écoutez-le justement nous parler de la naissance de ce projet.
J'ai eu cette chance de me retrouver avec 12 de mes meilleurs potes enfermés en quelque sorte pendant 5 semaines pour fabriquer une maison. Et j'étais effectivement une sorte d'observateur à regarder comment mes copains vivaient, s'embrassaient, s'engueulaient, se vannaient, se déplaçaient. Et ça m'a beaucoup aidé. Inspiré parce que j'étais en pleine adaptation justement du scénario.
Voilà donc un film de potes dans la lignée des petits mouchoirs de Guillaume Canet où tout va voler en éclats lorsque la bande va mal accueillir la fiancée de Patrick, la pièce rapportée entre guillemets. Et en même temps, ils ont aussi la cinquantaine, ils se demandent s'ils ont encore assez de choses à se dire et la réponse, elle est au cinéma.
Champagne de Nicolas Vanier et le nouveau Jurassic Park, Jurassic World, le monde d'après, c'est en salle aujourd'hui. Merci beaucoup Laurie Cheleva. Et on vous retrouve samedi pour votre émission Clap sur Europe 1 entre 14h et 15h.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Peers.
5h58, dans un instant la météo, le journal, et ensuite on va parler virus.
Oui, de virus informatique à l'occasion du Forum international de la cybersécurité qui a lieu actuellement à Lille. Forum qui se déroule cette année dans un contexte très particulier, celui de la guerre en Ukraine. Une guerre qui a aussi une dimension cyber. Kiev est la cible d'attaques informatiques venant probablement de Russie, ce qui amène à cette question. Notre soutien à l'Ukraine nous expose-t-il à de cyber-représailles? Est-ce que le nombre de cyberattaques visant la France a augmenté depuis le début de l'invasion russe? Et bien sous ces questions, on va les poser dans une dizaine de minutes à Nicolas Arpagian, c'est un grand spécialiste de la cybermenace. Et puis on écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Sa carrière commence par un concours musical dans un club de rugby au Pays de Galles. La voix délicieusement éraillée de Bonnie Tyler dans la partition, dans 20 minutes.
Mais avant la météo, Anissa Haddadi, parapluie pour presque tout le monde.
Et oui, nous avons une perturbation assez active qui traverse le pays entre le sud-ouest et la Belgique. Ça y est, la Bretagne, la Normandie, ils ont été touchés cette nuit. Donc là, il y a un ciel de traîne qui est en train de se mettre en place. Donc des nuages, des éclaircies. Bon, c'est pas terrible, mais ça redevient sec. Ce matin, le temps reste sec aussi le long de la façade est entre l'Alsace et la Côte d'Azur. Même si au bord de la Méditerranée, le temps va le rester sec. On n'aura pas du tout de pluie. On aura du vent, Mistral et Tramontane, mais pas de pluie. En revanche, en Alsace, les pluies arrivent à la mi-journée. Cet après-midi, entre l'Auvergne et la Belgique et sur le Grand Est, eh bien, on aura des pluies qui seront moins fréquentes, mais qui vont prendre un côté orageux avec pas mal de coups de tonnerre. 10 à 21 degrés ce matin, cet après-midi, 18 à Aurillac, 21 à Paris, 23 à Strasbourg et Lyon, 26 à Saint-Jean-du-Gard et 28 pour Salon de Provence.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le mercredi 8 juin. Il est 6h. Ces câbles traînent sûrement chez vous et vous ne savez plus quoi en faire. Fini les chargeurs par dizaines, l'Europe veut imposer un modèle unique pour tous nos appareils. Une économie de 1000 tonnes de déchets chaque année. Alors c'est pour quand? Explication dans un instant. C'est la journée mondiale de l'océan, un milieu tapissé par une ressource d'avenir, l'algue, des légumes de la mer cueillis au croisic où nous retrouverons dans un instant notre correspondant. Et puis, où sont passés les Républicains? À 4 jours des législatives, le parti peine à exister, encerclé par la majorité et l'alliance de la gauche.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Peers.
Et à 6h, le journal, c'est avec Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Qui n'a jamais connu ce casse-tête? Trouver un câble compatible avec son téléphone après avoir oublié son propre chargeur? Encore un peu de patience, l'Europe devrait bientôt y mettre fin grâce au chargeur universel.
Oui, après 10 ans de tergiversation, le Parlement et le Conseil européen sont parvenus à un accord provisoire hier.
Et d'ici 2024, dans 2 ans, tous nos téléphones, tablettes et autres consoles de jeux partageront le même port USB-C. Les explications de Nina Droff.
Si vous avez un téléphone ou un ordinateur portable, vous avez sûrement déjà rencontré ce type de désagrément.
Mes deux sœurs, elles ont deux Samsung, mais les deux, ils n'ont même pas le même chargeur. Moi, j'ai un iPhone, donc à chaque fois, c'est la galère.
Moi, j'ai des chargeurs d'anciens téléphones, ça traîne au fond du placard.
Mais à partir de 2024, tout va changer puisque seuls les chargeurs de type USB-C seront autorisés dans l'UE. Un chargeur unique pour tous les appareils. Une petite révolution écologique selon Sonia Gospodinova, porte-parole de la Commission européenne.
Les chargeurs non utilisés représentent 11 000 tonnes de déchets électroniques. Avec un chargeur unique, ce chiffre sera réduit de 1 000 tonnes chaque année.
En plus de cela, cette mesure représente un certain nombre d'avantages économiques pour les consommateurs, selon David Cormand, eurodéputé écologiste.
Pour les fabricants, les constructeurs, d'avoir plusieurs chargeurs et de remplacer les chargeurs, etc., etc., c'est une manière d'inviter à la surconsommation. Avec un chargeur universel, une fois que vous en avez un ou deux, vous les gardez longtemps.
Selon les estimations, les ménages de l'Union européenne économiseront au total plus de 250 millions d'euros par an.
Nina Droff, à noter que pour les ordinateurs portables, en revanche, le chargeur universel sera autorisé à partir de 2026.
Des économies pour les consommateurs, mais également pour la planète. Aujourd'hui, le Parlement européen planche également sur ses futures lois dédiées à la transition écologique.
Un paquet climat, autrement dit une feuille de route pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les eurodéputés votent ce mercredi 8 juin.
Un calendrier qui coïncide avec la journée mondiale de l'océan.
Et à cette occasion, on part à la découverte d'un métier ce matin sur Europe 1, les geoémoniers, ces marins-pêcheurs spécialisés dans la récolte des algues marines, des végétaux cultivés pour notre alimentation et jusque sur les tables étoilées. Le port du Croisic est même l'un des plus importants fournisseurs en France. Notre correspondant Charles Guillard a rencontré l'un de ces cueilleurs professionnels.
Ça, c'est du nori, une algue rouge.
Dans ce seau, une partie de la récolte du jour, une vingtaine de kilos d'algues que Jean-Marie Pédron transfère dans de grandes cuves.
Voilà, donc là, je mets de l'eau parce que les petits bigorneaux vont ressortir. Et ensuite, je vais installer ces algues dans des bacs pour faire tomber le sable au fond, etc.
But de cette opération, rendre ces algues les plus présentables possible, car dès le lendemain, elles seront envoyées à plus de 120 grands chefs cuisiniers en France qui les transformeront à leur guise.
Ils vont en faire des chips, ils vont entourer du poisson, ils vont les mincer, ils vont le mettre dans des salades. On peut même en utiliser pour du dessert.
Depuis plus de 10 ans, les Pédrons sont cueilleurs d'algues professionnelles et leur entreprise, les Jardins de la Mer, n'est pas prête de connaître la crise.
Depuis très longtemps, on les consomme sans le savoir, dans le dentifrice, dans les bonbons, dans les crèmes dessert, dans plein de choses. Mais c'était sous forme de poudre. On utilisait les propriétés gélifiantes des algues. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'on va les trouver directement dans l'assiette. On peut les considérer comme des légumes ou comme des condiments.
Et des végétaux marins de plus en plus prisés, vendus entre 30 et 40 euros le kilo, sur les 700 espèces d'algues recensées, entre 12 et 15 sont consommés pour leurs propriétés hautement nutritionnelles.
Les algues ont tout ce qu'il nous faut pour compléter notre régime alimentaire.
Le Croisic, Charles Guyard, Europe 1.
6h04 et J-4 avant les législatives. Duel à distance aujourd'hui entre Elisabeth Borne et Jean-Luc Mélenchon.
Le leader de la NUPES organise ce soir son dernier grand meeting avant le premier tour des législatives dimanche. Un rendez-vous prévu dans le Calvados, département où se présente aussi la première ministre, attendue à une réunion publique à Vire en fin d'après-midi.
Un bras de fer où les Républicains ont bien du mal à exister.
Oui, les LR affaiblis par la présidentielle pourraient même perdre le rôle de premier opposant sur les bancs de l'Assemblée nationale. Le parti compte pour l'instant une centaine de députés et peut-être moins à l'issue du scrutin. Alexandre Chauveau, un dernier conseil stratégique était organisé hier.
Oui, et ce que visent les candidats des Républicains, c'est une qualification au second tour, car en cas de duel face au Rassemblement National ou à la NUP, la droite espère s'en sortir en profitant d'un report de voix en sa faveur. Le but, empêcher Emmanuel Macron d'obtenir une majorité absolue et le contraindre ainsi à considérer les députés LR. Nous serons les acteurs déterminants des 5 ans qui viennent, affirme même Christian Jacob. Mais alors la droite veut-elle être une force d'appoint pour Emmanuel Macron? Réponse de Christian Jacob, le président du parti.
Force d'appoint et marchepied, certainement pas. En revanche, nous avons toujours été force de proposition. Jamais on n'a été dans des attitudes de blocage, à aucun moment. Les textes qui vont dans le bon sens, on sait les voter. Ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, on sait s'opposer avec dureté et on continuera dans cet esprit.
Christian Jacob, dont le départ est acté après ces élections, concentre les critiques depuis plusieurs semaines. Il est déjà à la retraite, confie un stratège qui lui reproche, comme d'autres, l'absence de campagne nationale des Républicains. LR n'a notamment pas fait de meeting comme ses adversaires Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Une discrétion qui irrite autant qu'elle aiguise les ambitions en coulisses pour lui succéder.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal.
On passe au sport, présenté par Martin Lange, le journal des sports bien évidemment. Et on commence par du cyclisme et une nouvelle victoire française sur le Dauphiné.
Oui, David Godu s'est imposé hier lors de la première arrivée au sommet de cette édition 2022 dans le Puy-de-Dôme. Victoire au sprint devant l'un des nouveaux monstres du peloton, Wout van Aert, le Belge qui pensait l'emporter, qui a même levé les bras avant de voir le Français le passer sur la ligne.
Un peu long, je me suis dit, ah, ça va pas le faire. Je sentais que j'avais de la force, alors j'ai tout mis et je vois Wout, je dis ah, je vais aller le bouffer. Et au final, j'arrive à aller le bouffer. Donc, toutes les galères que j'ai eues là, au mois de mars, c'est l'explosion du roi.
David Godu qui raconte son arrivée, Van Aert qui se consolera avec le maillot jaune. Godu lui est deuxième avant un contre-la-montre aujourd'hui entre Montbrison et la Bâtie d'Urfé dans la Loire.
On passe au football et les Bleus décollent ce matin pour Vienne.
Oui, ils affrontent l'Autriche vendredi, pas le droit à l'erreur après un début de Ligue des Nations moyen, un nul et une défaite. Des Bleus qui pourront compter sur Adrien Rabiot, buteur lundi en Croatie. Le milieu de terrain a grandi depuis son arrivée à la Juventus malgré une nouvelle saison sans titre.
La saison en club, c'est vrai que c'était compliqué. Il y a eu des hauts, des bas. On va dire que c'était une saison plutôt mitigée. Le fait d'être arrivé à la Juventus, ça m'a fait mûrir. Je me prends moins la tête et je me concentre sur jouer au foot.
Adrien Rabiot au micro de Cyril de la Morinerie.
Enfin, en bref, Martin.
Du basket et un peu de sursis pour Paula Cortez. Les Béarnais ont battu Monaco hier en demi-finale de Betclic Elite. Ils reviennent à 2-1. Rappelons qu'il faut 3 victoires pour rejoindre l'Asvel en finale. Enfin, du volley, avec le début de la Ligue des Nations la nuit prochaine, les Bleus, champions olympiques en titre, affrontent l'Italie. Premier gros test pour le nouveau sélectionneur, Andrea Gianni, face à son pays d'origine.
C'était le journal des sports de Martin Lange, merci.
La France est-elle la cible de cyberattaques russes depuis l'invasion de l'Ukraine ? Réponse dans une minute avec Nicolas Arpagian, spécialiste cybermenace. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h10. Votre invité, Julien, est spécialiste de la cybermenace, directeur de la stratégie de cybersécurité chez Trend Micro, l'un des spécialistes du secteur.
Bonjour Nicolas Arpagian.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin. Depuis Lille, où vous allez intervenir au Forum international de la cybersécurité, le congrès de référence en la matière, qui après la crise sanitaire se déroule cette année dans, une nouvelle fois dans un contexte particulier, celui de la guerre en Ukraine. Nicolas Arpagian, est-ce que la dimension cyber de ce conflit a débordé chez nous ? En clair, est-ce que la France est davantage la cible de cyberattaques depuis le début de l'invasion russe ?
Alors en fait, on ne l'a pas documenté proprement lié au conflit russe. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça a été une appréhension. Pourquoi ? Parce que dans les années passées, on a eu l'expérience d'usage de l'arme numérique dans ce conflit, puisqu'on pense déjà à la période de 2017, où effectivement, il y avait eu des effets de bord, c'est-à-dire que des entreprises qui étaient connectées à des infrastructures présentes en Ukraine, en France, avaient été infectées et donc avaient eu des pertes économiques concernant leur continuité d'activité. Donc c'est vrai qu'on a tiré les enseignements de ces attaques passées du premier, ou en tout cas du conflit russe ou russo-ukrainien précédent, et qui fait qu'on a relativement préservé les entreprises françaises, en tout cas sur le territoire français, en 2022.
Du coup, j'imagine que l'ambiance au forum est plutôt au soulagement, parce qu'au début de l'invasion, je me souviens que les spécialistes du secteur dont vous faites partie retenaient leur souffle vu la force de frappe des Russes en la matière.
Alors, vous avez raison, parce que d'une part, on avait donc l'enseignement des précédentes tensions et affrontements entre la Russie et l'Ukraine, où l'arme numérique avait été utilisée dans une assez grande ampleur, et donc on a anticipé. Et donc c'est vrai que déjà, on avait investi depuis dans les outils de protection, de détection, et effectivement, et d'ailleurs dans les premiers jours avant l'entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien, on a quand même vu des cyberattaques visant les infrastructures ukrainiennes, et donc effectivement, on a beaucoup anticipé pour éviter justement que ce ciblage puisse déborder au-delà des frontières géographiques du pays.
Et justement, vos collègues ukrainiens, comment est-ce qu'ils s'en sortent ?
Alors c'est compliqué parce que effectivement quand vous c'est la combinaison d'attaques numériques et d'attaques physiques, vous êtes bien on est tous bien conscients que la priorité est donnée à la protection des vies humaines sur le territoire quand il y a des bombardements d'infrastructures, de bâtiments. Donc le volet numérique est relativisé. Par contre, il est certain que c'est un outil également politique pour l'Ukraine. Lorsque le vice-premier ministre ukrainien envoie un tweet à Elon Musk, le président de la constellation satellitaire Starlink, en lui demandant de déplacer cette constellation au-dessus de l'Ukraine pour lui permettre de conduire la connectivité du téléphone portable qui permet à M. Zelensky de communiquer, d'interpeller les chancelleries occidentales. Et en fait, c'est une partie de la guerre numérique d'assurer la maintenance des infrastructures de manière à assurer, là encore, la disponibilité des images, la capacité d'exister malgré la destruction des infrastructures physiques au sol.
Est-ce que les Russes, en tout cas les attaques qui nous semble venir de la Russie. Je sais qu'il est très compliqué de pouvoir déterminer qui sont derrière ces attaques, mais est-ce qu'il vous semble que les Russes ont montré tout ce dont ils sont capables ?
Alors, non. Pourquoi ? Parce que le principe, désormais, c'est que le numérique fait partie de l'arsenal offensif. C'est dans la palette des armes à la disposition des gouvernements. Il y a cette arme numérique et donc ils l'utilisent de la même manière qu'il y a des actions au sol, il peut y avoir des actions aériennes, etc.
Donc il y a une gradation, comme pour... voilà.
Certainement, parce qu'on va pouvoir varier également la nature des cibles, c'est-à-dire des cibles civiles, des cibles économiques, des cibles industrielles. Et puis surtout, ce qu'on avait redouté, c'était éventuellement que cette arme numérique soit utilisée pour créer des déstabilisations chez des alliés objectifs de l'Ukraine. C'est-à-dire que pour que des pays éventuellement qui commençaient à manifester un soutien trop marqué à Kiev commencent à éventuellement s'inquiéter quant à la durabilité de leurs organisations, le fait que leur structure civile, économique, financière, administrative, administratives puissent être ciblées. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un effort particulier des pays occidentaux, pour faire simple, pour surveiller ce qu'il pouvait survenir sur leurs infrastructures.
Et puis on a entendu beaucoup parler, en tout cas au début de l'invasion, d'agents dormants, de virus qui auraient été implantés dans les réseaux des mois, voire des années plus tôt. Est-ce qu'ils ont été activés? Est-ce que vous en avez vu la couleur?
Alors, effectivement, le principe, qu'est-ce que c'est? C'est que d'habitude, dans des organisations strictement crapuleuses, criminelles, elles conduisent une infiltration et très vite cherchent à monétiser le fruit de leurs actions. Dans le cadre d'interventions étatiques, on est sur des calendriers beaucoup plus longs. Et une des hantises des pays, notamment occidentaux, c'était de se dire que des semaines, des mois auparavant, des agents dormants, c'est-à-dire des structures qui étaient infiltrées dans des emplois, à des endroits critiques des systèmes d'information, des entreprises, des opérateurs d'importance vitale, auraient pu être activés ultérieurement pour créer des dysfonctionnements. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la lignée du conflit de 2017 russo-ukrainien, la réglementation française, européenne, a fixé aux opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire ces entreprises issues des secteurs comme les télécoms, l'eau, l'alimentation, les services financiers, des obligations supplémentaires dans leur capacité de compréhension de leur univers numérique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que vous pouvez détecter les comportements anormaux? Est-ce que vous avez des politiques de sauvegarde, etc., pour justement éviter ces agents dormants ou en tout cas limiter leur impact dès lors qu'on les aura détectés dans les meilleures conditions.
Est-ce que, à la faveur de la crise sanitaire et désormais de cette guerre en Ukraine, ça y est, nous autres Français avons pris enfin la mesure de cette menace cyber?
Alors, la France fait partie des pays qui, assez tôt, s'est doté de législation pour encadrer ces pratiques, a procédé à des recrutements, notamment dans le giron administratif avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Par contre, donc ça, c'est la démarche positive. La démarche plus complexe, c'est qu'il faut trouver des femmes, des hommes experts dans ce domaine. Il y a de vraies pénuries de professionnels et donc il est difficile parce que les grandes entreprises, les fournisseurs de services, les administrations civiles, les administrations militaires sont des recruteurs de candidats qui sont rares sur le marché. Deuxièmement, il faut investir malgré les aléas conjoncturels, c'est-à-dire que il faut continuer, même si votre marché est un peu affaibli, il faut continuer à investir dans ce domaine de manière à ne pas s'exposer, ne pas être fragilisé. Et troisièmement, il faut faire en sorte que vos utilisateurs, vos salariés, vos agents administratifs,
fassent attention et aient les bons réflexes.
Au quotidien.
Infiniment Nicolas Arpajian d'avoir répondu à nos question ce matin. Frontières.com, c'est le titre de votre dernier livre sorti il y a quelques semaines aux éditions de l'Observatoire. Très bonne journée à vous.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la partition de Bonnie Tyler.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h19 sur Europe 1, bon réveil. Les principaux titres, Alban Le Prince.
Un appel à témoins lancé par l'IGPN dans l'affaire du refus d'obtempérer à Paris. Samedi dernier, les trois agents qui ont ouvert le feu sont sortis de garde à vue. Hier, une information judiciaire est ouverte à leur encontre. Le chauffeur du véhicule a quant à lui été placé en garde à vue. Les ennuis continuent pour les EHPAD. 30 familles de résidents de maisons de retraite Corian portent plainte aujourd'hui pour mise en danger de la vie d'autrui ou encore homicide involontaire, selon le Parisien. Ce matin et coïncidence, l'ancien directeur général d'Orpea a été entendu hier par les gendarmes dans une enquête pour délit d'initié. Il est accusé d'avoir revendu ses actions en apprenant la sortie prochaine du livre Les Fossoyeurs à l'origine des révélations.
On termine avec votre partition, Omblin. Elle fête ses 71 ans aujourd'hui, mais elle en fait 20 de moins. Les secrets de la jeunesse éternelle de Bonnie Tyler. Une vie tranquille en bord de mer, détournée, et puis, il faut le dire, le botox.
Oui, c'est ce qu'on adore aussi hein, chez Bonnie Tyler. Julien, son franc-parler. J'ai commencé à 40 ans avant d'avoir des rides, dit-elle, sans aucune gêne. Et pour son brushing à la Farrah Fawcett, eh bien, toutes les 6 semaines, elle est chez sa coiffeuse depuis 50 ans dans la région où elle est née. Où elle a grandi au Pays de Galles. Quand elle s'arrêtera, je ne pourrai plus sortir. Ajoutez à ça une voix plus rocailleuse que jamais. Et vous avez le portrait d'une icône.
L'enfance et l'adolescence de Bonnie Tyler, tout près du petit port gallois de Swansea, sont heureuses.
Oui, auprès de son père, un grand gaillard qui travaille à la mine et qui boxe le dimanche. Son timbre exceptionnel, la chanteuse le tient sans doute de sa mère dotée d'une voix d'opéra à la Callas. C'est l'une de ses tantes qui l'inscrit à un concours de chant dans un pub bourré de rugbymen. C'est Bonnie Tyler encore qui le raconte.
Woman,
juste majeur. Bonnie Tyler se produit le soir dans des clubs de la région.
Elle reprend avec son groupe les tubes du moment. C'est ainsi qu'au milieu des années 70, elle attire l'attention d'un découvreur de talent venu de Londres. La légende raconte qu'il s'est trompé d'étage dans une boîte de nuit quand il l'a entendu pour la première fois. Cet agent britannique n'hésite pas une seule seconde et décide de la lancer. La chanteuse s'appelle encore comme ses parents l'ont baptisée, Gaynor Hopkins. Elle déniche son pseudo Bonnie Tyler en cochant plusieurs noms dans un journal.
Et son premier disque, Lost in France, connaît un joli succès.
Oui, mais pas en France. La vraie gloire internationale tombe 2 ans plus tard en 1978 avec It's a Hot Take. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late.
Hits you when you're down. Bonnie Tyler a 26 ans et elle vend 50 000 albums par jour.
Oui, à partir de ce moment-là, son public va lui vouer une passion sans borne, et notamment en Autriche, en Suisse, en Scandinavie, ainsi qu'en Allemagne, où se trouve sa maison de disques et où depuis un demi-siècle, la chanteuse assure une trentaine de concerts par an dans des salles de 3000 places. Son mari, un ex-champion olympique de judo, l'accompagne depuis 40 ans partout dans le monde. Et depuis qu'elle a rencontré le succès, Bonnie Tyler ne passe pas une seule année sans partir en tournée. Tyler, 71 ans aujourd'hui avec Total Eclipse of the Heart. Je vous parlais de la fidélité de ses fans allemands. À votre avis, où sera-t-elle en concert ce week-end?
Berlin.
À Leipzig, notamment.
Pas loin. Merci beaucoup, Blin. Vous restez avec nous dans un instant. La matinale se poursuit en France avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.